Le 28 février 1821, il y a tout juste 200 ans, naissait Rachel, l'une des plus grandes actrices du 19e siècle. Car si elle est aujourd'hui méconnue, elle fut à son époque aimée, adulée, acclamée par le public en France, mais aussi à l'international où elle effectua de nombreuses tournées jusqu'en Amérique. Rachel compte dans notre histoire culturelle car elle fut l'une des premières stars de la scène française. Elle annonce un phénomène qui se déploiera tout au long du XXe siècle avec le cinéma. Nous allons explorer les raisons de ce succès avec Jean-Claude Yon, directeur d'études à l'École pratique des hautes études et spécialiste de l'histoire du spectacle. Bonjour Jean-Claude Yon.
Bonjour.
Alors pour commencer, quand on parle des actrices au XIXe siècle, on pense souvent à Sarah Bernhardt, mais on oublie Rachel, elle la précède d'une certaine façon.
Oui, et en plus, Sarah Bernhardt a une vie quand même relativement longue, puisqu'elle meurt après la Première Guerre mondiale. Et puis, elle vit à une époque où les moyens, les médias se développent énormément, alors que notre pauvre Rachel est morte toute jeune, à 37 ans. Et elle est vraiment au début de ces phénomènes de société médiatique, de starification que vous évoquiez.
Et quand on lit, quand on découvre son histoire, il y a un côté conte de fées parce que Rachel part de très bas. C'est presque une bohémienne qui connaît la gloire.
Et précisément pour faire d'elle une star, elle a tous les éléments qu'il faut, à savoir, effectivement, elle appartient à une famille de colporteurs. Elle naît en Suisse et elle arrive enfant simplement en France et à Paris. Et elle appartient à un milieu très, très modeste. Elle aura d'ailleurs toujours autour d'elle sa famille qui va se consacrer entièrement au théâtre et avec un père qui cherche surtout à faire de l'argent. Et comme c'est une famille juive, ça renforce tous les préjugés qu'on peut avoir sur les juifs dans le monde du spectacle, qui sont présents dans les mentalités au XIXe siècle. Donc elle part de rien. Et puis elle va être révélée très rapidement comme par un coup de baguette magique. Elle va en plus non pas se consacrer au théâtre de ses contemporains. Elle ne joue pas du Hugo, enfin elle en jouera un peu, mais elle ne joue pas du drame romantique. Mais elle ressuscite ce genre qui est la tragédie. Et donc, elle est comme une fée qui arrive à la Comédie française et qui ressuscite Corneille, Racine, Voltaire. N'oublions pas que Voltaire est considéré encore au XIXe siècle comme un grand auteur théâtral. Et elle a un nombre d'amants invraisemblable. Elle a donc une mort de la tuberculose toute jeune, des tournées à foison, vous l'avez dit. Donc, elle a tous les éléments qui font d'elle, j'allais presque dire, une sorte de Marilyn Monroe du XIXe siècle.
Et qui la repère, qui la révèle au tout début de sa carrière ?
Alors, elle a aussi donc, elle incarne, et là on est tout à fait en phase avec l'époque et l'esprit romantique, elle incarne en quelque sorte le génie brut, puisqu'effectivement, au départ, elle ne sait même pas lire et écrire, elle est sans éducation, mais elle s'empare du répertoire qu'on lui donne avec une énergie, une noblesse absolument extraordinaire. Donc, au départ, en fait, elle est repérée par des gens de théâtre, elle passe dans un cours, d'abord d'ailleurs un cours de chant, mais finalement, c'est pas une chanteuse, c'est beaucoup plus une actrice. Et puis il y a un personnage central qui s'appelle Samson, qui était vraiment un grand acteur du 19e siècle, qui la repère, qui la fait rentrer au conservatoire et puis aussi surtout à la Comédie française en 1838. Donc elle est toute jeune, elle a 17 ans. Et là, sa façon d'interpréter Corneille, Racine, Voltaire est une véritable révélation notamment pour la critique et notamment pour le grand critique Jules Janin qui était tout puissant, qui la lance. Un petit peu comme de nos jours, on pourrait lancer une nouvelle actrice à travers une série télé ou un film. Et donc tout de suite, c'est un phénomène et toute sa vie, elle restera une sorte d'attraction, ce phénomène qui attire les foules aussi bien en France qu'à l'étranger.
Vous dites que son répertoire est le répertoire classique plus que le courant romantique. Mais quelque part, une actrice, est-ce que c'est elle qui choisit ses pièces ? Elle est célèbre à ce point-là de pouvoir se donner ce luxe d'accepter telle ou telle pièce ?
Alors tout de suite, comme elle a beaucoup de succès, elle va avoir cette toute-puissance qui fait partie de la star. Elle a d'ailleurs aussi un autre attribut évident de la star qui est de gagner beaucoup d'argent, puisqu'elle demande énormément d'argent à la Comédie française avec qui elle a des rapports assez compliqués, mais elle impose ses choix, elle choisit presque les directeurs, elle démissionnera 3 fois de la Comédie française pour faire du chantage par rapport à cette société qui, vous le savez, est gérée en partie par les sociétaires, par les autres comédiens, avec des phénomènes de jalousie. La jalousie est très développée à la Comédie française. Je parle bien sûr du 19e siècle, pas de nos jours. Mais effectivement, donc elle est toute puissante et elle choisit ce type de répertoire. Alors après, se pose la question, beaucoup d'auteurs veulent écrire pour elle, mais qu'est-ce qu'on peut lui faire interpréter? Est-ce qu'on peut la faire parler en prose? Puisqu'avant tout, c'est quelqu'un qui interprète du répertoire en vers. Et notamment, j'en parle parce que c'est une pièce que certains de nos auditeurs doivent connaître. En 1849, Eugène Scribe, qui est vraiment le grand auteur, non pas romantique, mais vraiment le grand auteur dramatique du 19e siècle, avec son collaborateur Le Gouvet, vont avoir l'idée géniale de lui faire interpréter le rôle d'Adrienne le Couvreur, c'est-à-dire d'une autre grande tragédienne du 18e siècle. Donc il va y avoir une espèce de phénomène de théâtre dans le théâtre. Elle va jouer une autre tragédienne et elle va réciter le répertoire que jouait Adrienne le Couvreur, tout en montrant les coulisses de la vie théâtrale. Et cette pièce, qui deviendra aussi bien plus tard un opéra et qui a été reprise par Sarah Bernhardt, Adrienne le Couvreur, est vraiment une façon très habile de la part de Scribe de lui faire jouer une pièce contemporaine, mais en la remettant dans les habits d'une ancienne tragédienne.
Et que peut-on dire de son jeu? Qu'est-ce qui frappe les contemporains quand elle interprète un rôle?
Alors déjà, elle a, et là aussi, ça participe de son mythe, parce qu'on peut vraiment parler d'un mythe de Rachel, elle a une noblesse innée, qui est d'autant plus extraordinaire que, comme on l'a dit, elle sort de la rue. En fait, quand elle était gamine, elle allait mendier ou vendre des oranges dans les cafés à Lyon. Enfin, vraiment, elle sort d'un milieu très, très modeste. Mais elle a cette façon de se mouvoir, une façon de porter le costume aussi avec une élégance extraordinaire. Et elle sera aussi importante pour l'histoire de la mode. Donc, elle a déjà cette présence extraordinaire. Elle n'est pas spécialement belle. Elle est un peu petite, maigre, mais elle a un charisme extraordinaire d'une part, et puis elle a une voix, une sorte de voix de contralto qui est absolument extraordinaire, et une façon de prononcer les vers qui n'est pas une façon, j'allais dire, académique ou traditionnelle, puisque ce qui l'emporte, c'est vraiment chez elle le sens. Donc d'une certaine façon, elle récite la tragédie classique comme le drame romantique. Et donc, elle ne joue pas les auteurs romantiques, mais elle intègre toute la modernité du répertoire romantique dans sa façon de jouer Corneille ou Racine. Et de ce point de vue-là, c'est une véritable révolution. D'ailleurs, dans certaines pièces, on ne joue que les actes où on ne représente que les actes où elle est présente, parce que dès qu'elle sort de scène, le public commence à s'ennuyer. Il y a vraiment cette présence extraordinaire, de la même façon qu'au XXe siècle, des acteurs, des actrices sauront capter la caméra. Elle sait capter l'intérêt du public.
Comment le public manifeste-t-il son intérêt pour Rachel? Est-ce qu'il s'intéresse aux détails de sa vie? Est-ce qu'il essaie d'imiter ses tenues? Vous parliez de la mode tout à l'heure.
Alors, elle est l'objet d'une attention universelle et notamment, comme elle a une vie privée très compliquée avec un très grand nombre d'amants, bien sûr, sa vie privée intéresse énormément les journalistes et elle est traquée, il n'y a pas encore de paparazzi, mais elle est traquée par la presse. Le public, lorsqu'elle fait des tournées, vient l'attendre à la sortie du théâtre. Alors, c'est pas la seule, mais on dételle les chevaux de sa voiture pour tirer sa voiture, la ramener à son hôtel. Donc il y a vraiment une ferveur extraordinaire qu'on pourrait retrouver d'ailleurs de nos jours plutôt à l'égard de stars de rock ou de grands footballeurs dans certains stades, parce qu'en fait les théâtres au 19e siècle, c'est beaucoup plus l'ambiance d'un stade de foot actuel que d'une salle de théâtre bien policée comme on en connaît à notre époque. Donc il y a cette adulation qui va même jusque à un élément intéressant lorsqu'elle meurt. Donc en 1858, on va prendre de façon indue, parce que la photo s'est développée, des photos d'elle sur son lit de mort, et on va chercher à les monnayer. Donc on a déjà ces phénomènes qu'on pourrait avoir au moment de la mort de Claude François ou de Johnny Hallyday ou je ne sais quelle vedette actuelle, où on va dérober l'image de Rachel sur son lit de mort.
Cette mort très jeune participe au mythe Rachel.
Ah, complètement. Et Rachel, c'est un peu James Dean. On n'imagine pas un James Dean ancien, vieux, âgé. On n'imagine pas une Rachel. Et de ce point de vue-là, vous parliez tout à l'heure du parallèle qu'il faut faire absolument avec Sarah Bernhardt. Sarah Bernhardt, elle a su gérer la vieillesse. Mais Rachel ne pouvait être qu'une, et ça participe encore de son mythe, qu'une espèce d'éclair de génie qui dure quelques années et puis qui soudain s'arrête et s'éteint.
Son image s'est diffusée très largement par de multiples supports. Lesquels exactement ?
Alors, elle est énormément peinte et sculptée par toute une série de grands artistes de l'époque, par exemple Achille de Veria. Donc, la sculpture, la peinture, la lithographie, la photographie aussi, puisqu'effectivement, pour la fin de sa carrière, la photographie est déjà développée. La presse parle d'elle à longueur de jours et de colonnes. Donc, on est effectivement, elle meurt sous le Second Empire à une époque où, en fait, la culture de masse commence simplement à se développer. Elle se développera, elle existera vraiment à la fin du 19e siècle. Donc, elle meurt encore un peu tôt pour que le système médiatique soit complètement constitué. Mais précisément, beaucoup de choses qu'on va retrouver avec Sarah Bernhardt, avec d'autres grandes vedettes, ont été pour la première fois expérimentées avec elle dans les années 1850 ou les années 1840.
Son image se trouve donc partout dans les journaux et elle-même se rend également à l'étranger. Est-ce que c'était courant à l'époque de faire des tournées en Europe et jusqu'en Amérique ?
Alors jusqu'en Amérique, beaucoup moins, mais en Europe, oui. Et notamment donc les grands acteurs, et notamment les grands acteurs de la Comédie française, lorsqu'ils négociaient avec la direction du théâtre, négociaient d'une part pour avoir bien sûr le meilleur salaire possible, mais aussi pour avoir des congés qui ne sont pas du tout pour se reposer, mais au contraire pour partir en tournée, et parce que les tournées sont extrêmement lucratives, alors extrêmement épuisantes, puisqu'au départ ces tournées, on est au moment où le réseau de chemin de fer se met en place simplement, donc elle va prendre le train, mais elle voyage beaucoup en diligence, elle joue énormément pour faire de l'argent, si en plus elle refuse de jouer dans une ville, le maire, toutes les autorités sont mécontentes, donc il faut quand même qu'elle joue quoi qu'il arrive. Donc ces tournées l'emmènent à la fois dans toute la France, dans toute l'Europe, notamment en Angleterre où elle est absolument adorée. La reine Victoria a une vénération pour Rachel. Elle va jusqu'à Saint-Pétersbourg. Saint-Pétersbourg payait très très bien les acteurs français. Et notamment, il y avait un théâtre qui s'appelle le Théâtre Michel, qui a duré de 1833 à 1918, qui était une troupe à demeure d'artistes français qui jouaient en français le répertoire, puisque toute l'aristocratie parlait français, bien évidemment. Donc elle va aller à Saint-Pétersbourg, toute la famille impériale l'accueille presque comme une égale. Et puis, à la fin de sa vie, elle décide de se lancer dans une tournée aux États-Unis en 1855. Tournée très intéressante parce que ça va être aussi l'objet dans la presse française de comparaison entre le public américain et le public français. On dit que les Américains, en fait, ils sont plutôt faits pour les combats de boxe ou d'animaux. Ils ne sont pas assez cultivés pour écouter Rachel. Elle aura quand même du succès. Mais malheureusement, elle est à un moment où elle est malade. Toutes ses tournées l'ont épuisée d'une façon horrible. Et donc, elle doit écourter grandement cette tournée, revenir en France. Et donc, paradoxalement, la dernière fois qu'elle monte sur scène, c'est en décembre 1855, à Charleston, donc dans le sud des États-Unis, où elle joue Adrienne le Couvreur, pièce où effectivement l'héroïne meurt en scène et tous les gens autour d'elle, la troupe qu'elle avait emmenée avec elle, elle était partie avec une vingtaine de comédiens, ceux qui ont témoigné ont dit qu'ils avaient le sentiment non seulement de voir Rachel jouant la mort d'Adrienne le Couvreur, mais sa propre mort. Et effectivement, elle ne remontera plus sur scène, elle cherchera, parce qu'elle ne meurt qu'en 58, donc elle cherchera en fait l'année suivante à aller retrouver la santé en Égypte, mais effectivement elle est trop malade et elle finira donc par mourir au tout début de l'année 1858. Donc même dans cette dernière tournée avortée, il y a quelque chose de formidablement romanesque et qui alimente le mythe. Sur son enterrement, puisqu'elle meurt au Canet, on ramène sa dépouille à Paris et puis on lui fait vraiment un enterrement magnifique au Père Lachaise, au carré israélite, parce qu'il y a aussi cette composante religieuse dont je n'ai pas beaucoup parlé, mais plusieurs fois on a annoncé sa conversion, mais en fait elle est restée fidèle à la foi de ses pères. Et Philippe Boutry, qui prépare le grand historien du 19e siècle, qui prépare un ouvrage sur Rachel, dit qu'en fait la mort de Rachel, c'est la première mort médiatique du 19e siècle, parce qu'effectivement, quand on voit la presse, quand on voit la façon dont s'est déroulé l'enterrement, on a l'impression déjà d'un événement typique du XXe siècle, avec un battage médiatique, une émotion extrêmement développée.
Et comment cela s'est-il manifesté? Nous avons les témoignages de ses admirateurs, les bouquets de fleurs, les mots, les lieux de recueillement.
Bah oui, et en fait, ce qui est aussi toujours extraordinaire et terrible avec un comédien, c'est que l'art du comédien, en fait, au XIXe siècle, avant le cinéma et avant le phonographe, on n'en a rien. Et même d'ailleurs pour une interprète comme Sarah Bernhardt, quand on écoute quelques enregistrements, ça nous semble presque inaudible et avec un style très différent. Donc l'art du comédien, c'est vraiment ce qui se passe à un moment donné entre un public et un acteur. Et ça disparaît. Donc ce qu'on a, effectivement, c'est des bribes. Et on a une sorte d'ombre d'une sorte de comète extraordinaire, d'une actrice géniale qui est passée, qui a ressuscité encore une fois à l'époque du romantisme, qui a ressuscité le théâtre classique, la tragédie, en lui insufflant finalement la modernité du romantisme, et puis qui a disparu, et il ne reste que des témoignages, que des tableaux, que des poèmes d'admiration de la part des grands écrivains. Elle a été par exemple l'amante de Musset, qui voulait absolument que Musset lui écrive une pièce, ça s'est pas fait. Donc il y a aussi ce côté insaisissable. Hein, un écrivain, il nous reste ses livres, un musicien, ses partitions, mais une grande actrice comme Rachel, à la limite, c'est presque une sorte de parfum, une chose qui a existé à un moment et qui n'existe plus, et ça la rend, à travers les années, encore plus mystérieuse et attirante.
Est-ce qu'elle laisse tout de même un héritage ?
Pas vraiment, dans le sens où après elle, la tragédie, le théâtre en vers aura du mal à continuer à exister, même si on aura à la fin du siècle... Alors, un grand tragédien plutôt qu'une grande tragédienne, c'est Mounet Sully. Je pense que c'est un nom qui est encore présent dans les esprits. Et puis on a encore du théâtre en vers. Et peut-être la pièce la plus célèbre du 19e siècle français, c'est Cyrano de Bergerac, qui est une pièce en vers, mais qui apparaît presque un peu comme une survivance lorsqu'il est créé à la fin du siècle. Donc non, pas énormément d'héritage. Rachel, c'était... J'allais dire, il fallait être à ce moment-là pour la voir et pour succomber à son charme. Et puis après, la vie des spectacles continue sur d'autres biais.
Et par d'autres vedettes, parce que si son héritage est là, c'est peut-être dans cette figure de l'actrice,
bien sûr,
adulée.
Bien sûr, et donc toutes les actrices qui viennent après elle chercheront à reprendre tel ou tel aspect de son jeu, de sa personnalité. Et on a déjà plusieurs fois évoqué Sarah Bernhardt, parce qu'effectivement le parallèle est absolument évident. Sarah Bernhardt a voulu reprendre certains rôles importants de Rachel, comme Phèdre. Elle a repris aussi par exemple Adrienne le Couvreur, elle a même été plus loin, parce qu'elle a elle-même réécrit la pièce pour la mettre à son goût. Mais effectivement, toutes les actrices de la seconde moitié du 19e siècle vivent un peu avec l'ombre portée, si je puis dire, de Rachel, et reprennent ou imitent, ou en tout cas sont conscients qu'elle est passée avant eux, et avant elle notamment, et qu'il faut faire avec.
Eh bien, un grand merci Jean-Claude Yon de nous avoir fait sentir ce parfum de Rachel. Je rappelle que nous fêtons les 200 ans de cette grande actrice, née le 28 février 1821. À bientôt.
À bientôt.